Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70.
Igor Strauss.
En République démocratique du Congo, la polémique se poursuit autour de la nomination du président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Vous le savez, les 8 confessions religieuses qui sont reconnues dans le pays ne parviennent toujours pas à un consensus concernant la désignation du futur président. Les églises catholiques et protestantes, qui ont la présidence de la plateforme des confessions, refusent toujours le choix de Denis Kadima, candidat des 6 autres confessions religieuses. Du coup, bien, la tension est montée d'un cran dimanche avec la profanation de lieux appartenant à l'église catholique dans le Kassai oriental et des attaques contre l'archevêché à Kinshasa et la résidence du cardinal Ambongo. Des attaques unanimement condamnées par la classe politique mais qui prouvent le désarroi et l'impatience d'une partie de la population face à un processus de désignation qui s'éternise. Pour rappel, il avait été relancé en mars 2021 après une interruption due à des violences en juillet 2020. Alors, que pensez-vous de cette situation? Partagez-vous les doutes exprimés par les églises catholiques et protestantes? Comment garantir la neutralité du futur président? Nous lançons le débat, donc appelez-nous au 33 9 693 693 70 et on va prendre un premier auditeur, c'est Charles qui nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Charles.
Bonjour Igor, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Alors quelle est votre réaction Charles? Que pensez-vous de cette situation?
Bon, d'entrée de jeu, je pense que nous sommes finalement en train de revivre le même scénario lors des élections de 2011 et 2018. Et il avait été demandé qu'il y ait des réformes profondes au niveau de la CENI pour éviter des erreurs que nous avons connues lors du dernier scrutin. Malheureusement, ça nous rattrape aujourd'hui. Il a été décrié la dépolitisation, plutôt la politisation de la CENI. Il était question qu'on puisse dépolitiser la CENI. Alors, vous allez vous rendre compte que, dernièrement, les réformes, entre guillemets, les réformettes qui ont été initiées par l'Assemblée nationale, malheureusement, ces réformes n'ont aucune envergure et elles ne facilitent pas en fait, les bons déroulements des scrutins. Donc, ce qui est aujourd'hui pour moi, c'est qu'on doit renforcer la loi électorale, on doit recourir à des réformes profondes de la CENI. C'est cela qui va permettre à ce que celle-ci soit capable de pouvoir produire des élections libres, transparentes et démocratiques tant attendues par le peuple congolais.
Il faut qu'il y ait plus de personnes issues de la société civile, c'est ça que vous souhaitez finalement?
Oui, d'abord la composition des membres de la CENI, donc le bureau de la CENI actuellement.
Le bureau de la CENI, concrètement, c'est 6 membres. Effectivement, un seul est issu de la société civile, c'est le président. Quant à la CENI, elle est composée de 13 membres, 6 membres de la majorité, 4 de l'opposition et 3 de la société civile. Donc effectivement, la société civile est sous-représentée.
Elle est sous-représentée justement. Pour nous, nous pensions qu'il fallait plus renforcer les membres issus de la société civile, parce que à ce moment-là, on peut finalement espérer avoir une CENI réellement indépendante. Mais tant que la CENI sera politisée, composée par les membres de la majorité au pouvoir actuellement, qui sont d'ailleurs sont majoritaires, et puis ceux de l'opposition, et très peu de membres de la société civile, je pense qu'on ne pourra pas finalement aboutir à un consensus. C'est pour cela que vous voyez, les confessions religieuses dénoncent cet état de choses. Et il est grand temps que les politiques comprennent cela. Nous avons besoin des élections qui soient réellement démocratiques et transparentes. Mais dans les contextes actuels, il est vraiment difficile que nous puissions même avoir quelqu'un, un animateur de la CENI. Vous voyez comment les confessions religieuses sont en train de tourner en rond. C'est à cause de tout ça.
D'accord. Ben écoutez, on a bien compris votre position, Charles. On a bien compris votre position. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une très bonne journée à Lubumbashi. J'aimerais donner la parole à d'autres auditeurs. On va pas reprendre la direction de Kinshasa puisque nous sommes avec Emmanuel. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Igor. Bonjour à tous les compatriotes. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI, sans oublier Madame Jessica Taïeb, Madame Audrey, Madame Chloé du service Appel sur l'actualité de RFI.
Eh bien, écoutez, les bonjours sont passés, ils sont transmis. Quelle est votre position à vous, Emmanuel?
Ouais, Igor, vous savez, c'est avec beaucoup de tristesse que je donne ma position par rapport au prélat catholique de notre pays. En tout cas, ce que font nos pères catholiques, ils nous livrent un spectacle vraiment désolant, un spectacle décevant, parce que aujourd'hui, nous avons comme l'impression que l'Église catholique travaille pour quelques officines politiques. Igor, on ne peut pas comprendre. Vous êtes allé choisir un président ou voter, parce qu'il y a dans la charte de confessions religieuses, il est bien stipulé, à l'absence du consensus, on passe par le vote. Et ça, ça a été déjà, ce sont des règles préétablies. Comment expliquer un candidat qui est allé déposer, passez-moi la redondance, qui est allé déposer sa candidature en amont, vous l'avez accepté, après qu'il soit élu, vous les contestez, prétextant qu'il soit de la même zone géographique que le chef d'État. Maintenant, la question que nous posons, nos populations, pourquoi quand M. Denis Kadima est allé candidater, est allé déposer sa candidature, pourquoi déjà en amont, le prélat n'avait pas fustigé le fait qu'il ait déposé sa candidature? C'est en aval qui, après qu'il soit élu, c'est en ce moment que nos prélats nous disent, voilà, non, on ne peut pas accepter parce qu'il soit proche du chef de l'État. Ça, nous n'acceptons pas ça, parce que c'est une démarche qui va amener le pays dans le déclin, qui peut même entraîner qu'il y ait glissement, chose que nous ne voulons pas. Nous voulons que les élections se fassent en 2023.
Alors on reproche effectivement, Emmanuel, on reproche à Denis Kadima de venir du Kassai comme le chef de l'État, mais hier, Labine Chollet, le secrétaire général de la CENCO, l'a rappelé, il l'a dit au micro de Sonia Rollet, je lance un appel à nos frères kassaïens de ne pas laisser manipuler par un petit groupe qui n'a pas leur intérêt à cœur. Pour la CENCO, les choses sont claires, on ne reproche pas à Denis Kadima de venir du Kassai.
Non, mais écoutez, c'est ça, monsieur l'abbé Chollet, en tout cas, je ne veux pas dire qu'il soit amnésique. Parmi les griefs, moi j'ai suivi la conférence, le point de presse tenu par le président Marcel Outhembi de la CENCO, disant que on ne pouvait pas accepter que le candidat soit de la même zone géographique que le président de la République, même si l'abbé Chollet aujourd'hui le dément, mais le président de la CENCO l'a dit. Et nos amis de la CENCO ne peuvent pas oublier que nous avons connu 4 présidents de la CENI dans ce pays qui sont tous de l'espace swahilophone au moment où nous avions un président de la République qui soit aussi de l'espace swahilophone. Où est-ce que la CENCO à l'époque était pour aujourd'hui fustigé que M. Denis Kadima, où est-ce qu'à l'époque la CENCO, où est-ce que la CENCO à l'époque était pour nous dire que tous ces 4 présidents étaient de l'espace swahilophone au moment où le président Joseph Kabila était swahilophone, pour qu'aujourd'hui qu'il nous rapporte une polémique déconcertante disant que M. Denis Kadima, tellement il est du Kassai.
Alors, une politique déconcertante, on va s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs, beaucoup de nombreux témoignages. J'aimerais donner la parole, on va rester à Kinshasa. Merci Emmanuel en tout cas pour cette contribution. Je voudrais qu'on donne la parole à Jules qui est à Kinshasa également. Bonjour Jules.
Bonjour.
Alors comment est-ce que vous comprenez, vous, les propos d'Emmanuel?
Oui, je les comprends, c'est sa position, mais nous exigeons vraiment la dépolitisation de la CENI. La CENI doit être gérée par la société civile à 100% par la société civile. Bien sûr, l'actuelle répartition donne poids à la société politique, mais la présidence, on doit vraiment laisser à 100% à la CENI.
Je l'ai dit tout à l'heure, la CENI, c'est 13 membres, 10 de issus du mouvement politique et 3 simplement de la société civile.
Effectivement. Et le reste, le peu qui reste à la société civile, on doit laisser à 100% que la société civile décide. Et la société civile, c'est la composition église qui prime. Vous savez, l'église prend autour de 85%. Le monde chrétien prend autour de 85% en RDC. Alors, si Kadima n'est pas accepté par l'ECC et l'Église catholique, on doit laisser la société politique doit laisser libre la société civile de gérer très bien les élections pour bien préparer. On ne peut pas être juge et parti. Je suis du monde politique, mais je condamne ça. Je condamne tout ce qui arrive dans notre pays.
Mais pour vous, est-ce que Denis Kadima est légitime, justement?
Jusque-là, il n'est pas légitime. Pour n'avoir pas été accepté par l'Église catholique et l'Église protestante.
Tout simplement. D'accord. Merci Jules, merci de nous avoir appelé de Kinshasa. On repasse au standard 33 9 693 693 70. Nous sommes on retourne à Lubumbashi. Nous sommes en ligne avec Isaac. Isaac, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre position, Isaac? Nous vous écoutons.
D'accord, merci pour votre invitation. C'est un sujet délicat, un sujet d'actualité. Déjà, votre deuxième intervenant m'a quand même paraphrasé. C'est triste le feedback que nous recevons de l'Église catholique et de l'Église protestante. Le candidat a été choisi. Ce n'est qu'au moment où il est choisi qu'on nous rappelle qu'il est de l'espace Kassaya. C'est triste, déjà, qu'on fasse mention de la zone géographique par l'Église. C'est déjà très triste. Et je pense.
Mais
je pense
alors, excusez-moi Isaac, mais l'abbé Ncholé a été gelé tout à l'heure. C'est ce qu'il déclarait au micro de Sonia Rollet. Hein. Le fait que Denis Kadima vienne du Kassai n'est absolument pas un problème pour lui. En revanche, je vais citer Eric Ntsonga, le numéro 2 de l'ECC, qui a dit « Même si la majorité s'exprime, si ça se fait dans un cadre illégal, ça reste illégal pour lui. » Les six confessions ont voté alors que la séance avait été suspendue. Et c'est ça pour le fond du problème, finalement, plus qu'un problème de provenance de Denis Kadima.
Je crois qu'il y a contradiction entre M. Cholet et M. Ousseldi. Ça, c'est de A. Alors, qu'est-ce qui devrait se passer? Il devrait nous donner d'autres arguments plus solides que parler, que mettre en exergue le fait qu'il soit de la même zone géographique. J'aimerais qu'on me dise si M. Kadima est de l'UDPS, j'aimerais qu'on me dise si M. est de l'Union Sacrée ou soit encore président. Là, ça pourrait se comprendre. Mais quand on prend M. Teboto, nous avons rassemblé un candidat qui a été présenté par l'AMOUS aux élections législatives. Parce que l'Église protestante, plutôt.
En train de se vous demander de ne pas bouger, de rester où vous étiez, parce que on vous entendait bien, et là, soudainement, la ligne peut prendre. Je vais vous redonner la parole, mais voilà, et ne pas trop bouger.
D'accord.
Donc, est-ce que pour vous, on le disait, pour les catholiques et les protestants, le PV ne porte pas la signature du président de la plateforme, et c'est la seule, certes, à pouvoir l'engager. Donc, est-ce que vous comprenez, vous, position des catholiques et des protestants?
Je comprends leur position. L'Église catholique et l'Église protestante ne sont pas au milieu du village. Non, je le disais tout à l'heure, le candidat que portait comme candidat au poste du président de la République, en l'occurrence M. Ebotoko, a été candidat à l'élection législative pour le compte de la Mouka. Alors, comment peuvent-ils nous dire aujourd'hui que M. Kadima a un penchant, donc, serré du côté de M. Félix Tshisekedi. Pourtant, le candidat qu'il nous apporte est proche de monsieur, du parti de M. Fayoulou. Mmh. Donc, je crois que l'Église catholique devrait comprendre que la démarche est déjà lancée et que aujourd'hui, si les six confessions religieuses ont choisi M. Ici, vous rappelez que M. Koïmounda, qui a organisé des élections dans ce pays, était de la géographique.
Oui, ça a été dit, Excusez-moi, la ligne est générale, l'intérieur, on a du mal à vous comprendre. Merci, un bon à vous, on fait la navette entre Lubumbashi et Kinshasa, parce que Steve, qui nous appelle le nom de Kinshasa, Steve.
Bonjour Igor, et bonjour à tous les amis qui sont intervenus avant moi, bonjour aux auditeurs de la RFI.
Nous vous écoutons, Steve. Quelle est votre position?
J'ai une position légèrement ou plutôt différente de toutes les autres. C'est l'organisation des scrutins. Parce que pour moi, si nous entendons par dépolitisation de la CENI le fait d'enquêter la direction exclusivement aux confessions religieuses et la plénière majoritairement aux forces politiques, il me semble que nous avons tout faux. Les électoraux en scrutin, la cacophonie observée dans le processus de désignation, ainsi que les différentes réactions des partis politiques et de toute la société civile congolaise, sont là pour nous. À mon même avis, il faut réévaluer l'électoral et faire en sorte que les bureaux de la CENI soient composés exclusivement des membres élus par les différentes organisations de la société, préalablement sélectionnés sur des profils bien définis.
Donc uniquement la société civile et plus de politique dans la CENI.
Unique. Non.
Qu'est-ce que vous créez ? Les forces politiques cherchent à contrôler l'institution, c'est ça que vous créez finalement ?
L'histoire me le démontre. Même que les présidents et membres d'une église, analysons les processus électoraux que nous avons vécus depuis le début.
Alors Steve, si vous voulez bien lire quelques commentaires qu'on reçoit sur Norge, qui nous écrit « La CENI, depuis sa création, n'est indépendante que de nom. Le pouvoir en place, jure une mainmise sur cette institution d'appui à la démocratie, quelle que soit la provenance du président de la CENI. » Et en revanche, on a Jean qui nous dit « Le pouvoir d'avoir une mainmise sur la CENI, mais plutôt du tribalisme qui s'est installé même au sein de certaines églises en RDC. » Qu'est-ce que vous pensez de ces Steve?
Elles sont tout à fait justes. Tous les conflits préélectoraux, électoraux et post-électoraux que nous avons vécus depuis qu'on a commencé à organiser des scrutins sont des preuves de cet argumentaire qui vient d'être présenté.
Steve, restez avec nous. On va donner la parole à Léo Kinshasa. Bonjour Léonard.
Bonjour RFI et bonjour à tous les auditeurs.
Alors Léonard, est-ce que vous êtes d'accord avec la position à vous finalement ?
Je crois que le fait que la CENI revienne exclusivement pas à cette commission électorale toute son indépendance, parce que je dois vous dire, sans mâcher les mots, la plupart d'acteurs de la société civile sont avant tout politiques. Ça, je dois le dire sans parce que à la lumière de ce que nous voyons dans la désignation du président de la CENI, nous comprenons très bien qu'il y a de velléités politiciennes qui sont parfois ambiguës et que nous ne comprenons pas. Donc tout porte à croire qu'il y a là que nous ne comprenons pas du tout.
Et Léonard, alors Léonard, mais c'est poli, n'est pas la solution. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ?
C'est beaucoup plus forcer la loi électorale. Il faudra que la désignation de membres de la CENI se fait. J'ai entendu Steve proposer membres de la société civile qui doivent composer exclusivement cette CENI. Ça, on doit être très exigeant sur les critères de sélection et les modes de sélection. On ne peut pas, au cours d'une élection, par exemple, changer des principes au nom d'une appartenance ethnique. Ça, j'ai trouvé que c'était très mesquin. Je crois que ma plus grande peur, je le disais, c'est de voir aboutir à ce que nous appelons ici les glissements. Parce que nous émettons nos voeux de voir les élections se tenir en 2023. Mais à qui se passe ? Les calendriers n'étant pas encore mis en place, nous mourrons de tomber dans l'histoire, dans ce que nous avons décrit passé, le retard dans les calendriers électoraux et...
J'ai bien compris, Léonard, très rapidement, je voudrais redonner la parole à Steve. Steve, est-ce que vous craignez également un retard dans les élections, en deux mots ?
Non, pas du tout.
Pas
du
tout.
Par contre, si vous permettez, j'aimerais revenir sur ce
sujet. Non, on va pas... c'était juste pour finir au terme. De mission, malheureusement le temps passe très vite. Vous étiez nombreux à souhaiter encore vous exprimer. Je pense à José qui nous avait été à Kinshasa. Voilà, excusez-nous José. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. C'est la fin de cette émission. Vous l'avez. Demain, nous parlerons du Mali et du plan d'action du Premier ministre Cheguel Mega, largement adopté. Pour le reste de la transition, le Mali a-t-il les moyens de ses ambitions ? Ce sera notre débat demain. Appelez-nous 33 9 693 693 70. Vous êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 11h à Paris, 9h en temps universel. L'heure du journal présenté par Michael Ponge. Bonjour Michael.
Bonjour Igor, bonjour à tous. Et à la une des accusations d'exaction rejetées par les talibans, les ambassades américaines et britanniques en Afghanistan évoquent de possibles crimes de guerre de la part des fondamentalistes religieux sur les civils afghans. Nouveau président d'Ibrahim Raisi a prêté serment ce matin à Téhéran. Dans l'actualité aussi, la flambée de Covid et le retour des confinements dans les Antilles françaises. La mort suspecte aujourd'hui d'un opposant biélorusse découvert pendu en Ukraine et puis les JO de Tokyo. On suit le basket quart de finale. La France affronte en ce moment l'Italie. Dans moins d'un mois, le 31 août prochain, les forces étrangères auront définitivement quitté l'Afghanistan. Et après avoir pris un large pan des zones rurales aujourd'hui, les talibans resserrent leur étau sur trois grandes villes du pays, Herat, Kandahar